France Info.
France Info.
Bonjour Dounia Bouzard.
Bonjour.
Vous voulez désamorcer l'islam radical, c'est le titre de votre nouveau livre, qui est à la fois une enquête et un cri d'alarme. Vous montrez comment l'islam radical gagne du terrain, y compris en France. Que voyez-vous? Qu'est-ce qui vous frappe?
Alors, c'est vrai qu'il faut bien définir les choses. Et j'ai appelé islam radical dès lors que le discours religieux mène des jeunes à l'auto-exclusion et à l'exclusion des autres, dès que ça les mène à la rupture avec la société, la rupture avec leurs anciens amis, la rupture avec leurs anciennes activités, la rupture avec leur famille, il y a coupure familiale, et c'est vrai qu'il y a quelques années, personne, ce discours ne touchait, alors disons, des jeunes sans père ni repère. Aujourd'hui, plusieurs jeunes s'arrêtent et écoutent ce type de discours. Et ma question, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on n'en parle pas?
Comment est-ce que ça se manifeste dans la vie de tous les jours?
Alors, c'est une maman qui voit tout d'un coup son fils arracher un rideau parce qu'il y a des chameaux dessus et tout d'un coup, il lui dit « il y a le diable ». C'est des jeunes qui vont tout d'un coup transformer la religion en code, qui se voient, qui s'exhibent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être élus dans un groupe purifié. On n'est pas du tout dans une question spirituelle, de posséder la vérité. Et alors, ils vont exhiber des signes pour se reconnaître entre eux, se démarquer des autres, se protéger du mal, parce qu'ils ont l'impression que la société est vraiment régie par le mal, le diable. Et du coup, ils se construisent des espèces de barrières physiques. Donc, ils exhibent du religieux, un peu comme...
Comment, par exemple?
En remontant leurs chaussettes.
Pourquoi
en faisant pousser une énorme barbe.
Oh,
ben parce qu'ils déforment une petite anecdote du prophète qui demandait aux riches de cacher leurs richesses en bas de leur manteau parce que l'islam aime la justice sociale. Et eux, ils ont déformé cette anecdote pour se reconnaître entre eux, pour se démarquer et pour montrer qu'ils font partie du groupe purifié. Ça se manifeste aussi dans une espèce d'état d'hypnose. On ne raisonne plus, on est en mimétisme, on récite des choses et on n'utilise pas la raison que l'islam demande, que n'importe quelle religion demande.
Dounia Bouzard, parlez-vous là d'une minorité, d'une toute petite minorité ou aussi d'un discours radical qui se propage chez de simples croyants?
Ce qui m'embête, c'est qu'il utilise des procédés de la secte. C'est pour ça que le sous-titre, c'est les dérives sectaires qui déforment l'islam. Et quand on utilise des procédés sectaires, on endoctrine vite des personnes différentes. Ce qui m'embête, c'est que ça touche des gens différentes. Ça a touché un milieu d'origine bretonne. Ça a touché. J'ai des mamans du 16e qui m'appellent avec
du 16e arrondissement
de
Paris.
C'est ça, avec des enfants qui basculent en 3 mois. Donc, on est dans un système sectaire et j'ai poussé un cri parce qu'on n'arrête pas de faire le procès de l'islam à chaque fois qu'on veut parler de ces phénomènes et plus on fait le procès de l'islam, plus on n'étudie pas les procédés d'endoctrinement qui touchent des personnes différentes.
Qu'est-ce qui s'est passé, Dounia Bouzard? Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui, si on vous lit, si on vous comprend?
Écoutez, quand on relit des philosophes de base, on se rend compte que les gens qui adhèrent à des idéologies totalitaires, parce que c'est le cas, hein, un groupe purifié qui voudrait sauver le monde et purifier le monde, on est sur ce registre-là. On se rend compte que dans l'histoire, les gens qui ont adhéré à ce type d'idéologie, c'était quand même des gens qui avaient l'impression de ne pas avoir leur place dans la cité commune, que leur place n'était pas garantie par les autres. Donc, il y a quand même un vrai souci d'appartenance à la cité française. Il y a un souci...
Attendez, c'est de la faute de la société, c'est ça?
Non,
c'est de la faute de l'État?
Non, non, pas du tout. Mais par contre, non, parce qu'on l'a dans tous les pays. Hein. Le phénomène de l'islam radical monte dans d'autres pays européens. Donc, on ne peut pas faire de lien de cause à effet. Mais c'est vrai qu'en termes de prévention, il faut quand même travailler à cesser l'amalgame entre ce qui est de la religion et ce qui est de la dérive sectaire. Parce que sinon, l'amalgame profite aux radicaux. Elle les valide comme des religieux. Il faut au contraire, leur enlever leur justification. Ceux qui sont violents, ce sont des terroristes barbares. Ceux qui sont victimes d'endoctrinement, c'est des gens qui ont besoin d'aide psychologique. Il faut les traiter comme des endoctrinés sectaires. Et il ne faut surtout pas se dire c'est normal, chez eux c'est comme ça, et ne rien faire. Le laxisme leur profite autant que la discrimination.
Vous travaillez beaucoup dans les entreprises et vous donnez beaucoup d'exemples de ce qui se passe dans certaines entreprises, notamment autour des femmes, des hommes qui aujourd'hui refusent de de serrer la main des femmes. Est-ce que vous l'avez vu souvent, ça ?
C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. C'est-à-dire que, est-ce qu'on l'accepterait d'un chrétien ? Ou est-ce qu'on accepterait qu'un salarié refuse de serrer la main de quelqu'un parce qu'il est de couleur ou parce qu'il est musulman ? C'est la même loi. Il y a une loi antidiscrimination qui empêche le harcèlement entre salariés sur un critère interdit. On n'a pas le droit de refuser un rituel de considération à une femme parce qu'elle est une femme, à quelqu'un de couleur parce qu'il est de couleur, etc. Un musulman parce qu'il est musulman. Et il y a une... On se dit chez eux, c'est comme ça, ils traitent mal leurs femmes, c'est normal, ils ne leur donnent pas la main. On valide ce comportement ça relevait
de qui parlez-vous,
des managers.
Des managers dans les entreprises qui tolèrent ce genre de comportement.
Qui tolèrent parce qu'ils se disent, finalement, c'est une simple pratique religieuse. Chez eux, c'est comme ça. C'est pour ça que je veux travailler sur la vision aussi qu'on a de l'islam, parce que ça permet aussi d'accepter, de penser que l'islam est une religion par essence archaïque. Ça permet aussi un laxisme qui leur laisse du champ, un espace de liberté dans les pays occidentaux pour faire passer leur comportement archaïque comme une simple application de l'islam. Ils en profitent et ils mangent du terrain et ils redéfinissent l'islam et personne ne dit rien, ni les politiques. Tout le monde se dit, ben oui, c'est l'islam, c'est archaïque, c'est comme ça. Ils en profitent drôlement.
Quel conseil donnez-vous, là, par exemple, aux entreprises qui sont confrontées à cette difficulté ?
Appliquer la loi à tous de la même façon. Et si c'était Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on ferait ? Ah, il a postulé pour venir travailler dans un bar. Donc, il est obligé de servir de l'alcool. Ce n'est pas discriminant, c'est la mission qui prime. Ah, il ne serre pas la main à une femme parce qu'elle est une femme. Mais enfin, c'est très choquant. Il lui refuse quelque chose parce qu'elle est de sexe féminin. Ah, il arrache une affiche. Mais voilà, utiliser le droit commun. Faire comme si ce n'était pas les autres. C'est pas les musulmans sont nos semblables. Faisons comme si c'était les nôtres.
Et en même temps, vous dites, Dounia Bouzar, attention à l'amalgame. Et c'est la fameuse question qui revient sans arrêt, la question du voile. Que dites-vous là-dessus aujourd'hui ? Il y a eu l'affaire Babylou, il y en a eu beaucoup d'autres encore.
Je fais énormément la différence entre ce qui est de l'ordre du foulard, qui est vécu comme quelque chose de religieux par certaines femmes, et du niqab, ou des grands djilbabs, qui là, séparent, posent des frontières, sont des signes de rupture prônés par ces mouvements-là. Et évidemment, je regarde toujours pareil l'effet que ça a sur la personne. Est-ce que ça amène la personne à se ressourcer pour mieux se mélanger et aimer les autres ? Ou est-ce que ça l'amène à se distinguer des autres, à se séparer, à ne pas se mélanger parce que les autres sont impurs. On regarde l'effet du discours pour dire ce qui est radical.
Vous êtes critiqué par des musulmans radicaux et vous êtes aussi régulièrement critiqué par des défenseurs de la laïcité. Défendez-vous la laïcité, Dounia Bouzar ?
Je suis expert à l'Observatoire national de la laïcité.
C'est votre réponse à ceux qui vous attaquent de ce côté-là.
C'est donc, je pense que mes travaux, et non pas l'idée qu'on se fait de mes travaux de par mon prénom, mes travaux ont largement prouvé qu'en plus, j'ai construit une nouvelle façon de surtout ne pas faire d'accommodement raisonnable. J'ai construit des réponses pratiques pour en même temps travailler ensemble.
Accommodement raisonnable, ça c'est la méthode canadienne.
Oui, l'accommodement raisonnable. Voilà, c'est ça qui permet aux gens de s'identifier par leur religion, d'avoir des traitements spécifiques. En France, on travaille ensemble, quelles que soient nos convictions, qu'on soit croyant, athée. Et ce qui fait lien, c'est justement au-delà de nos convictions.
Merci Dounia Bouzar. Désamorcer l'islam radical, une enquête dont on va parler et qui est publiée aux éditions de l'Atelier.